L'IA, on sait, elle dévore les données. Mais bon, parfois, il n'y en a pas des masses, ou alors c'est compliqué de les utiliser éthiquement, légalement.
C'est clair.
Alors, imaginez un peu qu'on puisse entraîner un modèle avant même de lui montrer les données d'une tâche précise.
Ah oui.
Oui. Comment? Bah, en partant d'une sorte de hasard. Mais attention, un hasard un peu structuré. C'est intriguant, non? Allez, on regarde ça de plus près.
Carrément intriguant. Alors oui, on va explorer aujourd'hui une recherche assez fascinante qui s'appelle Universal Pre-training by Iterated Random Computation.
D'accord.
L'idée de base, c'est de créer des données synthétiques, mais pas juste du bruit aléatoire, hein. Des données qui sont, disons, enrichies par des calculs eux-mêmes aléatoires et répétés.
Des calculs aléatoires, ok.
Voilà, l'objectif, il est ambitieux. C'est de créer un modèle de base qui serait pré-entraîné de manière quasi universelle.
Universel, carrément.
Oui, pour qu'il soit utile ensuite pour plein de pages différentes.
D'accord. Donc notre but là, c'est de comprendre comment du simple bruit, une fois qu'il est passé à la moulinette de ces calculs aléatoires,
C'est ça.
genre des réseaux de neurones initialisés au pif, comment ça peut soudain avoir assez de structure, assez de jus pour pré-entraîner une IA efficacement.
Exactement.
Et est-ce que ça pourrait justement nous rendre moins dépendants de ces énormes jeux de données réelles? C'est un peu ça la question.
C'est tout l'enjeu.
Alors, l'astuce, si je comprends bien, c'est pas d'utiliser du bruit pur, genre du white noise.
Non, non.
C'est plus subtil. L'article prend une analogie, le singe devant sa machine à écrire, qui tape n'importe quoi.
Oui, le classique.
Comparé à un singe devant un ordinateur. L'ordinateur, lui, il impose déjà une structure, des règles.
Tout à fait.
Ici, c'est pareil. On prend une séquence de caractères aléatoires, on la donne à manger à des petits modèles neuronaux, eux aussi initialisés aléatoirement. Et ce qui ressort, bah, c'est plus totalement aléatoire. Il y a des motifs, des répétitions, une sorte de structure que le modèle suivant, le gros modèle qu'on veut pré-entraîner, peut apprendre.
Voilà, c'est là que ça devient intéressant.
C'est là que ça devient vraiment contre-intuitif, presque.
Oui, et ce qui est fascinant, c'est que ce processus de calcul, même en partant du hasard, il semble imprimer sa propre marque, une sorte de signature computationnelle.
Une signature. Ok.
C'est un truc comme si on pétrissait une pâte informe, tu vois? Le geste de pétrir, même s'il est un peu aléatoire, il finit par créer une texture, une structure dans la pâte.
D'accord, l'analogie est parlante.
Et théoriquement, ça touche à des idées assez profondes, liées à la complexité algorithmique, la complexité de Kolmogorov.
Ah, on entre dans le dur là.
Oui, un peu. Mais l'idée de base, c'est que même si l'information brute, au sens de Shannon, peut diminuer après le calcul,
D'accord.
eh bien la structure liée au calcul, elle, elle augmente. Et c'est cette structure-là que les IA peuvent capter et réutiliser plus tard.
Ok, je crois que je saisis l'idée générale. Une structure qui naît du processus de calcul lui-même. Mais alors, concrètement, comment ils s'y prennent? C'est quoi la recette?
Alors, en pratique, ils utilisent souvent des modèles comme les LSTM.
Ok, les longues short-term memory.
Oui, ces réseaux qui sont bons pour traiter des séquences. Ils les initialisent de manière aléatoire. On leur donne des données au début, ça peut être du bruit ou le résultat d'un calcul précédent.
D'accord.
Et paf! Ils génèrent de nouvelles séquences. Ces séquences, un peu enrichies par le calcul, on s'en sert ensuite pour entraîner un modèle plus gros, un transformer par exemple.
Les transformeurs, oui, l'architecture star du moment.
Exactement. Et il y a une petite astuce importante. Ils utilisent un buffer, une sorte de tampon,
Un tampon? Pourquoi?
pour stocker les données générées et les mélanger avant de les donner au gros modèle. Ça évite que le modèle final apprenne juste les petites manies ou les bizarreries d'un seul générateur aléatoire à la fois. Ça lisse un peu le processus.
Malin. Et la question qui tue, est-ce que ça marche? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, ces modèles pré-entraînés sur du hasard calculé?
Eh bien, oui, les résultats sont franchement encourageants. L'étude montre empiriquement que ça fonctionne.
Ah ouais?
Ces modèles pré-entraînés montrent une capacité d'apprentissage qu'on appelle zero shot.
Zero shot, donc sans entraînement spécifique sur la tâche.
C'est ça, ils peuvent réussir des tâches pour lesquelles ils n'ont vu aucun exemple. Et ça marche sur des trucs assez variés, reconnaître des motifs dans des chiffres, vérifier des parenthèses bien formées.
Des tâches un peu académiques, quoi.
Oui, mais aussi sur du langage naturel ou du code informatique.
Ah là, ça devient plus intéressant.
Et point important, plus le modèle pré-entraîné est gros, meilleures sont ses performances de départ. La taille compte.
Comme souvent, on y a.
Ici, en plus, on fait un petit affinage, un fine-tuning sur la tâche précise après.
Oui.
Alors le modèle apprend encore plus vite et il généralise mieux.
Attends, mais ça veut dire qu'on pourrait potentiellement échanger du temps et de l'argent passé à collecter et nettoyer des données contre de la puissance de calcul pure. pour générer ces données synthétiques intelligentes. Moins de données réelles, plus de calculs.
C'est exactement ça. C'est une des implications majeures qui est explorée. On pourrait peut-être substituer cette quête incessante de données réelles
oui.
par un investissement dans le calcul pour produire ces données synthétiques structurées grâce à ce qu'ils appellent la profondeur computationnelle.
Profondeur computationnelle, j'aime bien le terme. Mais alors, est-ce que ça ne vient pas un peu bousculer le fameux théorème du no-free lunch ?
Ah, bonne question.
Ce théorème qui dit, en gros, qu'aucun modèle n'est le meilleur pour toutes les tâches possibles. Si on entraîne sur du synthétique, comment ça peut être universel ?
C'est une excellente remarque. L'hypothèse sous-jacente ici, c'est qu'on s'intéresse surtout à des données qui sont, d'une manière ou d'une autre, le produit de processus calculatoires.
Ah d'accord, comme le langage, le code.
Exactement. La plupart des données qu'on analyse avec des ordinateurs ont une structure qui peut être décrite par un calcul. Si cette hypothèse est vraie, et elle l'est probablement pour beaucoup de domaines,
oui.
alors le théorème du no-free lunch s'applique différemment. Il pourrait exister des sortes de motifs universels liés à la nature même du calcul.
Des motifs liés au calcul.
Que ces modèles arriveraient à capter en étant entraînés sur du calcul aléatoire.
C'est l'idée. Ok. Donc, si je résume, on prend du hasard brut, on le fait mijoter dans des calculs aléatoires répétés.
C'est une bonne image, oui.
Et on obtient des données synthétiques qui, miracle, ont assez de structure pour pré-entraîner une IA de manière utile, avant même qu'elle ait vu les vraies données de sa future tâche.
C'est tout à fait ça.
Une piste vers des IA peut-être plus polyvalente et moins gourmande en données spécifiques finalement.
Exactement. Et au-delà de la prouesse technique, ça pourrait signifier quoi ? Ben, peut-être des IA développées plus vite, avec moins soucis liés à la collecte, au droit, à la confidentialité.
Ce qui serait pas mal.
Carrément. Et ça nous donne aussi un indice, peut-être, sur ce que les IA apprennent au fond. Pas seulement les motifs du monde réel, mais aussi la structure fondamentale du calcul lui-même.
Fascinant. Une sorte de méta-apprentissage sur la nature de l'information calculable.
On peut le voir comme ça, mais l'étude se termine sur une note de prudence.
Ah.
Oui, elle met en garde contre une poursuite aveugle de ce troc données contre calcul.
C'est-à-dire ?
Imaginons qu'on arrive à créer des modèles super puissants entraînés uniquement sur ces réalités synthétiques. Quelles seraient les conséquences ? Est-ce qu'on ne risquerait pas, par exemple, d'introduire ou d'amplifier des biais, mais cette fois des biais qui ne viendraient pas des données du monde réel ?
Mais des processus de calcul aléatoires qu'on a nous-mêmes conçus.
Précisément, des biais inhérents à nos choix de générateurs aléatoires d'architecture, une sorte de biais computationnel intrinsèque.
Waouh, ça ouvre une autre boîte de Pandore, ça.
Tout à fait. C'est une question importante à garder en tête pour la suite, une vraie matière à réflexion.